Vous savez, quand on regarde un film au cinéma et que l'histoire se termine, enfin,
Ouais.
la plupart des gens, ils se lèvent et ils quittent la salle pendant que le générique de fin commence à défiler.
C'est ça. On a une autre histoire, on s'en va.
Exactement. C'est juste une très longue liste de noms qui défilent sur un fond noir. Et honnêtement, on s'attend rarement à ce que le générique lui-même cache une intrigue palpitante, vous voyez. On considère juste que l'histoire est terminée.
Bah, c'est un réflexe tout à fait naturel, en fait. Notre cerveau a tendance à se déconnecter complètement face à une simple énumération.
Ouais.
On range mentalement la liste de noms dans la catégorie des formalités administratives.
C'est exactement ça. Et pourtant, quand on lit la toute fin de la lettre de l'apôtre Paul aux Romains, donc le chapitre 16, on a exactement cette même impression au premier abord.
Ah oui, complètement.
C'est une très longue liste de salutations, du genre saluer un tel, saluer un une telle. Mais aujourd'hui, on va plonger dans les recherches et les notes de conférence du docteur Craig Kenner sur cette section très précise, les versets 7 à 20.
D'accord.
Et ce que ces travaux démontrent, c'est que si on lit entre les lignes de ce qui ressemble à un vieil annuaire téléphonique de l'Antiquité,
Ouais, un annuaire, c'est un bon mot.
eh bien, on ne trouve pas une simple conclusion de lettre, mais on trouve le manifeste d'une véritable révolution sociale qui était en cours.
Et c'est vraiment l'enjeu principal de notre analyse d'aujourd'hui. Parce que, à travers ces noms très spécifiques, le docteur Kinner nous invite à décortiquer les mécanismes internes de cette communauté. Et on va voir comment ces quelques versets bouleversaient totalement les dynamiques de pouvoir, le rôle des genres, les hiérarchies de classe sociale aussi.
Qui était super rigide à l'époque.
Extrêmement rigide, oui. Et on verra aussi comment l'Église de Rome tentait de s'unir tout en repoussant des menaces internes vraiment très sophistiquées.
Bon, décortiquons un peu tout ça, si vous le voulez bien.
Je suis prête.
Commençons par le verset 7. Parce que c'est là que se trouve peut-être l'un des débats historiques les plus intenses de ce chapitre.
Oh que oui.
Paul salue Andronicus et Junia. Il précise qu'ils sont, je cite, « remarquables parmi les apôtres ». Et j'ai lu pas mal de théories affirmant que Junia était en fait un nom masculin.
Ouais.
Peut-être Junias. Et ça, c'était pour justifier la présence de ce fameux titre d'apôtre. Alors, que nous disent réellement les preuves linguistiques à ce sujet?
Alors, ce qui est fascinant ici, c'est que la linguistique ancienne, elle ne laisse quasiment aucune place au doute, en fait.
Ah, bon?
Non. Malgré les débats modernes, Junia est indéniablement un nom féminin.
D'accord.
L'argument selon lequel il s'agirait d'une sorte de contraction masculine du nom latin Junianus, pour donner Junias, ben ça ne tient pas du tout la route sur le plan philologique.
C'est-à-dire?
On ne contractait pas les noms comme ça. Exactement. On ne contractait tout simplement pas un nom latin de cette manière dans ce contexte précis. Et d'ailleurs, si on regarde un peu l'histoire de l'interprétation, même Jean Chrysostome,
le père de l'Église.
Oui, l'un des grands-pères de l'Église, il vivait au IVe siècle, donc une époque où, il faut le dire, le rôle des femmes dans la société et dans l'Église était devenu beaucoup, beaucoup plus restrictif.
Ouais, clairement.
Eh bien, même lui reconnaissait formellement Junia comme une femme.
Vraiment?
Oui, il a même écrit un commentaire où il exprime sa profonde admiration devant le fait qu'une femme soit jugée digne du titre d'apôtre par Paul.
C'est quand même incroyable ça. Mais il faut tout de même préciser, pour bien comprendre l'usage de Paul ici, que le terme apôtre dans le Nouveau Testament, il est utilisé de manière un peu plus large que le cercle très strict des 12 apôtres de Jésus.
Oui, c'est une distinction super importante.
On sait que Paul l'utilise pour lui-même, bien sûr, mais aussi pour des figures comme Silas, Barnabas ou même Timothée.
Voilà.
Donc, c'était plutôt un rôle de pionnier, de messager qui allait fonder de nouvelles communautés, c'est ça?
Exactement. C'est un rôle mentionnaire fondateur.
Mais bon, même avec cette définition plus large, voir une femme dans une telle fonction de leadership spirituel et surtout reconnue publiquement, c'est saisissant.
Alors oui, c'est très saisissant pour la culture gréco-romaine de l'époque, assurément. Mais si on regarde la tradition biblique dans son ensemble, et Kinner le souligne bien, ce n'est pas une anomalie totale.
Ah oui, avec les prophétesses.
Voilà, le docteur Kinner rappelle toute la tradition prophétique féminine qui précède ce texte. Dans l'Ancien Testament, on a Myriam, la sœur de Moïse.
Ouais.
On a Hulda. Elle, c'est littéralement la prophétesse vers qui le roi Josias se tourne pour valider l'authenticité du livre de la loi qui venait d'être redécouvert.
Donc le roi lui-même consulte une femme sur une question théologique majeure.
C'est exactement ça. Et puis, bien sûr, il y a Déborah. Et Déborah, elle n'était pas seulement une voix prophétique, elle était la seule femme juge sur tout Israël.
Ce qui veut dire qu'elle elle dirigeait politiquement et militairement aussi, non ?
Exactement. Elle exerçait une autorité politique, militaire et spirituelle directe sur le peuple.
D'accord. Et si on avance dans le Nouveau Testament, on a évidemment les filles de Philippe, ou encore le discours de Pierre à la Pentecôte.
Dans le livre des Actes.
Ouais, acte 2, où il cite le prophète Joël pour affirmer que l'Esprit est désormais répandu sur les fils et les filles pour qu'ils prophétisent à parts égales.
Tout à fait. Donc on voit bien qu'il y a un fondement théologique qui est très clair pour la prise de parole et l'autorité spirituelle féminine dans ces textes.
Mais c'est là que je dois vous arrêter, parce que tout ça soulève une contradiction qui semble franchement insurmontable.
Je vois très bien où vous voulez en venir.
Bah oui, d'un côté, on a Junia l'apôtre, on a Déborah, on a la prophétie de Joël, mais de l'autre côté, on a ces textes de Paul qui sont extrêmement célèbres, dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 14, ou 1 Timothée 2,
oui.
Où il ordonne très spécifiquement aux femmes de garder le silence et de ne pas enseigner. Alors, comment est-ce que la recherche explique cette dichotomie apparente ?
C'est vraiment le cœur du débat théologique aujourd'hui. L'approche que le docteur Crocotte-Kinner privilégie, qui est l'approche dite égalitarienne, elle repose très fortement sur le contexte culturel et situationnel de ces lettres.
D'accord, donc on regarde ce qui se passait concrètement dans ces villes.
Voilà. Prenez 1 Corinthiens 14, par exemple. Il faut s'imaginer que les églises de maisons antiques ne ressemblaient pas du tout, mais pas du tout, à nos cultes modernes très structurés.
Avec des rangées bien alignées et quelqu'un qui parle au pupitre.
Exactement. C'était un cadre beaucoup plus interactif. Ça se rapprochait du symposium gréco-romain, donc avec des échanges, des discussions.
Ok.
Or, à l'époque, la grande majorité des femmes grecques, elles étaient mariées très jeunes et elles n'avaient quasiment aucun accès à l'éducation formelle, contrairement aux hommes.
Donc, lors de ces rassemblements interactifs, qu'est-ce qui se passait ?
Eh bien, il semble que des femmes posaient des questions pendant l'enseignement. Mais comme elles n'étaient pas éduquées théologiquement, ces questions ou ces interruptions constantes créaient un chaos total dans le rassemblement.
Ah, je vois. C'est un peu comme, vous savez, lire les règles très strictes d'un forum en ligne aujourd'hui, avec plein d'interdictions.
Oui.
Et trouver ça dur, sans connaître le troll ou le problème super spécifique qui a provoqué la rédaction de ces règles.
C'est une excellente analogie. Vraiment. L'injonction de Paul qui leur dit de poser ces questions à la maison, à leur mari, elle viserait donc à maintenir l'ordre d'apprentissage, et non pas à interdire la participation inspirée.
Surtout que dans la même lettre, il me semble, Paul explique carrément comment les femmes doivent prophétiser et prier publiquement, non ?
Exactement, au chapitre 11. Donc, l'interdiction de parler du chapitre 14 doit être comprise comme une interdiction de perturber le culte, pas une interdiction absolue de prendre la parole.
Ok, d'accord. L'argument du manque d'éducation et du désordre explique plutôt bien le cas de Corinthe. Mais qu'en est-il de 1 Timothée 2 ?
Ah !
Parce que là, l'injonction au silence y est beaucoup plus directive. Et ça semble plus universel.
Pour 1 Timothée, le contexte est très différent. C'est une crise spécifique à la ville d'Éphèse.
D'accord.
Des faux enseignants s'étaient infiltrés dans l'église. Et devinez qui ils ciblaient en particulier ?
Je dirais les femmes.
Plus précisément, des veuves. Ces veuves de la haute société, elles possédaient souvent de grandes maisons, et ces maisons servaient de lieu de réunion pour l'église.
Ah, donc elles hébergeaient littéralement l'église chez elles.
Voilà, elles avaient de l'influence, elles avaient du temps libre, beaucoup d'argent, mais encore une fois, elles manquaient de formation théologique solide.
Le cocktail parfait pour se faire avoir.
Exactement. Les faux enseignants utilisaient l'influence de ces femmes pour propager leurs hérésies à toute la communauté. Donc dans cette lecture égalitarienne, l'injonction de Paul qui interdit à ces femmes d'enseigner, ce serait en fait une mesure d'urgence.
Une sorte de quarantaine théologique.
C'est ça, une quarantaine face à une crise locale majeure.
Bah attendez, parce que là j'ai une vraie question.
Allez-y.
Si ce n'est un problème purement local à Éphèse, avec des femmes manipulées par des hérétiques locaux.
Oui.
Pourquoi Paul font-il son argument sur la création même d'Adam et Ève, quelques versets plus loin dans 1 Timothée 3 ?
Ah.
Parce qu'il dit explicitement « Adam a été formé le premier, Ève ensuite ». Et il parle même de la tromperie d'Ève. Franchement, ça ressemble à un principe universel qui transcende la culture, ancré dans l'ordre de la création. Et pas du tout à une simple gestion de crise locale.
Et c'est une excellente remarque. Et c'est précisément l'argument central de l'autre vision, la vision dite complémentarienne.
D'accord. Donc ceux qui voient les rôles comme distincts.
C'est ça. Pour les théologiens de cette école, le fait que Paul s'appuie sur la Genèse, ça prouve qu'il ne donne pas juste un petit conseil culturel temporaire.
Ouais.
Ça prouve qu'il souligne une structure d'autorité qui a été établie par Dieu dès le commencement de l'humanité.
Donc dans cette perspective-là, la distinction des rôles entre les hommes et les femmes dans le leadership de l'Église...
C'est un principe intemporel.
Oui.
Ce qui signifie que les passages sur le silence ou sur l'interdiction d'enseigner avec autorité aux hommes, ce sont des normes applicables encore aujourd'hui.
Exactement.
Mais alors pour eux, que font-ils de Junien ou de Déborah?
Eh bien pour eux, ce seraient des exceptions. Ou bien ils expliquent que la nature de leur rôle prophétique ou apostolique n'impliquait pas l'autorité d'enseignement spécifique que Paul réserve aux pasteurs hommes dans 1 Timothée. D'accord, je vois la nuance.
En revanche, pour revenir à la lecture égalitarienne de Kenner,
ouais.
La mention d'Adam et Ève dans 1 Timothée, elle n'est pas vue comme un principe d'autorité universelle, mais plutôt comme une analogie locale.
Ah, une analogie, comment ça ?
Paul dirait en substance, regardez ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Ève a été trompée par le serpent parce qu'elle était vulnérable à la séduction, tout comme ces femmes à Éphèse sont actuellement trompées par les faux enseignants.
Ah, d'accord. Donc, Ève est utilisée comme un exemple de quelqu'un qui se fait tromper, pour faire le parallèle avec la situation locale.
C'est exactement ça. Dans les deux cas, vous voyez, le débat est d'une grande richesse théologique. Les deux camps s'appuient sur une très haute considération du texte biblique avec beaucoup de sérieux.
C'est sûr, on voit bien que personne ne prend ça à la légère.
Et comme le note Kinner, avec une petite pointe d'ironie d'ailleurs,
ouais.
Quelle que soit notre position théologique sur l'ordination des femmes, l'Église au sens large s'accorde au moins universellement aujourd'hui pour laisser les femmes chanter à haute voix dans l'assemblée.
Ah ah. Ouais.
Ce qui prouve bien que nous interprétons tous certains de ces ordres de silence avec une certaine souplesse.
C'est effectivement un super bon terrain d'entente, c'est clair. Mais bon, du coup, si on considère la façon dont ces églises de maison remettaient en question, ou à minima bouleversaient les dynamiques de genre, ça me fait me demander si cette même perturbation s'étendait à la gestion des classes sociales.
Ah oui.
Parce que la société gréco-romaine, elle n'était pas seulement divisée par le genre masculin-féminin. Elle reposait sur un système de caste et de clientélisme, de favoritisme qui était extrêmement brutal.
Absolument brutal. Et l'analyse sociologique des noms de Romains XVI, ça nous révèle un mélange qui aurait été perçu comme totalement, mais totalement subversif à l'époque.
C'est-à-dire ? Quel genre de nom on y trouve ?
Eh bien, vous y trouvez d'un côté des noms très couramment donnés à des esclaves ou à de récents affranchis, des noms comme Ampliatus, Urbanus ou Persis.
Persis, ça sonne perse, non ?
C'est ça. Le nom Persis indique fort probablement une esclave qui avait été importée de Perse.
D'accord.
Et ces individus, qui étaient issus des strates vraiment les plus basses et les plus méprisées de la société romaine, ils se retrouvent dans la même liste que l'élite absolue de l'Empire.
Ah oui, vous faites référence à la mention de la mention de la maison d'Aristobule et de la maison de Narcisse, qu'on trouve au milieu du chapitre.
Oui, tout à fait. Déjà, Aristobule, c'était un prince. Il était issu de la lignée directe d'Hérode le Grand.
Ah oui, quand même.
Mais le cas de la maison de Narcisse, alors là, c'est sociologiquement fascinant.
Racontez-moi ça.
Narcisse, c'était un affranchi à la base, mais il s'était élevé au rang de secrétaire personnel de l'empereur Claude.
Donc il était très proche du pouvoir.
Plus que proche. Son pouvoir géopolitique était monumental. Ça surpassait de très loin celui de la majorité des sénateurs de lignée noble, en fait.
Waouh.
Pour vous donner une idée, on estime que Narcisse avait amassé une fortune personnelle, écoutez bien, de plus de 400 millions de sesterces.
C'est complètement dingue. C'est un peu comme si l'assistant personnel d'un PDG d'une multinationale aujourd'hui, il possédait plus de pouvoir décisionnel, de secrets industriels et un compte en banque beaucoup plus gros que l'ensemble du conseil d'administration réuni.
C'est une comparaison très très juste. Les esclaves et les affranchis de maison de César contrôlaient l'accès à l'empereur, donc ils contrôlaient l'empire d'une certaine façon.
Ouais.
D'ailleurs, Narcisse a fini par être acculé au suicide par Agrippine, qui était la mère de Néron, lors des fameuses luttes de palais impitoyables pour la succession.
Ah ouais, l'ambiance romaine classique, quoi.
Voilà. Donc, lorsque Paul salue ceux de la maison de Narcisse dans la lettre aux Romains,
Ouais.
il s'adresse à des serviteurs, à des esclaves ou à des administrateurs qui évoluaient littéralement dans les cercles du pouvoir suprême de Rome.
Mais comment ça fonctionnait concrètement, d'un point de vue logistique et social, de mettre ces gens-là dans la même pièce?
C'était un défi immense.
Parce que dans le système romain, on a le riche mécène, le patron, qui dicte tout. Si, imaginons, un chrétien de la maison de Narcisse, avec ses connexions, hébergeait l'église,
oui,
mais que le leader spirituel reconnu par le groupe, ben, c'était une ancienne esclave comme Persis. Comment est-ce qu'il gérait cette inversion totale de pouvoir? Ça devait être une véritable poudrière, cette histoire.
Ce l'était, c'était une poudrière. Et c'est d'ailleurs pourquoi des conflits éclataient très souvent. On le voit bien dans les lettres aux Corinthiens.
Ah oui, avec les repas.
Exactement. Concernant les repas du Seigneur, Paul se fâche parce que les riches mangeaient toute la nourriture entre eux avant même l'arrivée des esclaves qui finissaient de travailler tard.
C'est affligeant.
Et pour désamorcer cette poudrière, Paul déploie ce que l'on pourrait appeler une véritable technologie sociale révolutionnaire.
C'est-à-dire
la redéfinition radicale de ce qu'est une famille. Les sociologues appellent cela la parenté fictive.
Ah, la parenté fictive. C'est le fait d'appeler frère ou sœur une personne avec laquelle on n'a absolument aucun lien génétique, c'est ça?
Exactement. Et Paul pousse le concept vraiment très loin. Par exemple, au verset 13, il salue Rufus.
Rufus.
Oui. Rufus, c'est très probablement le fils de Simon de Cyrène. Vous savez, cet homme d'Afrique du Nord qui a été forcé de porter la croix de Jésus dans l'évangile de Marc.
Ah oui, mais...
Eh bien, en saluant Rufus, Paul ajoute cette phrase magnifique. Il dit « Saluez sa mère, qui a été aussi une mère pour moi. »
Wow.
Paul, qui était un ancien pharisien de stricte observance, vraiment un juif rigoriste, il s'approprie la mère de ce chrétien d'origine africaine comme sa propre mère spirituelle.
Ça pulvérise tout, ça.
Ça pulvérise les frontières ethniques et les barrières de classe d'un seul coup.
Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que pour sceller publiquement cette unité familiale, Paul ne se contente pas de belles paroles, de grands concepts théologiques.
Non, il passe à la pratique.
Voilà, au verset 16, il donne un ordre physique très spécifique. Il dit « Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser ».
Oui, le fameux baiser.
Justement, réservé aux membres de la famille immédiate.
Exactement, c'était un marqueur d'intimité protectrice au sein du clan familial.
Et donc, commandé à une congrégation mixte avec des patriciens de l'élite, des esclaves, des hommes, des femmes, des juifs, des grecs, de se saluer par ce baiser familial.
C'est énorme.
C'était comme déclarer à la face de l'Empire, nos liens spirituels, ici, sont désormais plus forts et plus réels que nos liens de sang ou que nos statuts sociaux.
C'est tout à fait ça. C'est un acte de subversion sociale pacifique, mais très puissant.
D'ailleurs, il faut mentionner cette observation hilarante du docteur Kiener à ce sujet.
Ah oui, l'anecdote avec son étudiant.
Ouais. Il rappelle que, en fait, le texte biblique ordonne de se donner ce fameux saint baiser au moins 5 fois dans le Nouveau Testament.
Oui, c'est très récurrent.
En comparaison, le commandement pour les femmes de se couvrir la tête, lui, il n'a parlé qu'une seule petite fois. Et pour la tête couverte, on sait que c'était une question de pudeur spécifique au 1er siècle.
Absolument.
Mais certains groupes aujourd'hui, ils en font encore un dogme absolu et intemporel. Et pourtant, vous ne trouverez aucun de ces mêmes groupes débattre férocement pour réintroduire le baiser sur la bouche entre les fidèles le dimanche matin.
C'est assez drôle, en effet. Kiener raconte d'ailleurs avoir eu un échange très sympathique avec un étudiant.
Ouais.
Cet étudiant, il soutenait avec beaucoup de ferveur que le port du voile était une condition sine qua non d'obéissance littérale à la Bible, simplement parce que, je cite, « c'était écrit ».
Et qu'a répondu Kiener?
Eh bien, Kiener lui a fait remarquer, avec beaucoup de douceur, que, ben, en entrant dans la salle de classe ce matin-là, il venait lui-même de désobéir au commandement pourtant beaucoup plus fréquent du baiser sacré.
Ah, c'est imparable.
C'est une excellente leçon sur l'herméneutique et sur l'importance du contexte, n'est-ce pas? D'ailleurs, même l'Église primitive a fini par réglementer, puis restreindre fortement cette pratique du baiser.
J'imagine que c'est à cause des malentendus avec la société romaine.
Exactement. Imaginez des observateurs extérieurs païens.
Ouais.
Ils entendent des hommes et des femmes de classes complètement différentes s'appeler intimement frères et sœurs. Et ils les voient s'échanger des baisers lors de réunions, de nuits, à huis clos.
Ah ouais? Ça a dû faire jaser.
Ça a rapidement alimenté des rumeurs persistantes qui accusaient les chrétiens d'inceste et de débauche pure et simple.
D'où la nécessité d'encadrer la pratique pour protéger la réputation et le témoignage de l'Église.
Exactement.
Mais bon, on comprend bien l'objectif initial de Paul. C'était de forger une cohésion à toute épreuve.
Oui.
Seulement, le truc, c'est que créer un groupe aussi intimement lié, ça les rend paradoxalement très très vulnérables s'ils accordent leur confiance à la mauvaise personne.
Bien sûr. L'intimité crée la vulnérabilité.
Et je pense que c'est ce qui explique le changement de ton radical de Paul au verset 17 et 18. Parce que là, d'un coup, il lance un avertissement extrêmement sévère contre ceux qui provoquent des divisions.
Oui, parce que la menace interne, c'est toujours la plus dangereuse pour une famille. Une forteresse tombe souvent de l'intérieur.
Ouais.
Et Paul met en garde contre une catégorie très spécifique de personnes ici, les beaux parleurs.
Hein ?
Dans le texte grec original, il utilise deux termes techniques assez précis. Il y a christologia, qui désigne un discours très fluide, d'apparence très raisonnable, très pro.
Okay.
Et puis il y a elogogia, qui signifie l'art de la flatterie éloquente, dire les bonnes choses pour caresser dans le sens du poil. Donc Paul ne parle pas de gens un peu fous qui arrivent en hurlant des hérésies avec des pancartes.
Non, ça se verrait trop.
Voilà. Il parle de communicateurs charmants, de gens très sophistiqués et manipulateurs.
Alors, qu'est-ce que tout ça signifie concrètement pour l'époque? Comment ces enseignants opéraient-ils dans ce monde antique, pour que Paul s'en inquiète à ce point?
Eh bien, il faut comprendre le rôle des rhéteurs et des sophistes dans l'Antiquité. C'était souvent des philosophes ou des orateurs itinérants.
Des conférenciers, un peu.
En quelque sorte, oui. Mais ils utilisaient leurs compétences oratoires non pas pour chercher la vérité, mais pour s'attirer les faveurs de riches mécènes.
Ah, pour l'argent.
Principalement, oui. L'objectif, c'était d'infiltrer les maisons aisées, de flatter le maître ou la maîtresse de maison, et finalement de se faire entretenir financièrement.
D'accord.
C'est pour ça que Paul utilise cette expression terrible au verset 18 en disant qu'ils sont, je cite, « esclaves de leur propre vente ».
Et ça, c'est une expression que le philosophe juif Philon d'Alexandrie utilisait aussi à l'époque, c'est ça?
Tout à fait. C'est une métonymie classique de l'époque pour désigner l'auto-indulgence, la gloutonnerie charnelle, ou plus largement, une personne dont la seule et unique motivation, c'est son profit personnel et ses appétits égoïstes.
Ok.
Ils vident les ressources de la communauté pour se nourrir eux-mêmes, tout ça sous couvert de discours spirituels ou philosophiques super sophistiqués.
Franchement, c'est glaçant de modernité.
N'est-ce pas?
Parce qu'on pense immédiatement à certains politiciens modernes, ou plus encore à certains gourous du développement personnel, ou même de la spiritualité sur Internet aujourd'hui.
Les réseaux sociaux en sont remplis.
C'est clair, des gens qui maîtrisent, mais alors parfaitement, les éléments de langage de la bienveillance.
Oui.
Ils utilisent une rhétorique très étudiée pour flatter le narcissisme ou, pire, pour exploiter les vulnérabilités émotionnelles de leur audience.
Tout ça pour monétiser l'attention, vendre des formations ou récupérer des dons.
Exactement. C'est la même chose.
La dynamique psychologique est en effet exactement la même. Et face à cette menace de manipulation par la belle éloquence, Paul, lui, y donne un remède très clair. C'est l'ancrage.
L'ancrage dans quoi?
Il rappelle que la norme, la boussole, ça ne doit jamais être le charisme, l'éloquence ou le charme du prédicateur, mais l'obéissance de la foi, c'est-à-dire la fidélité absolue à l'enseignement apostolique originel qu'ils ont reçu au départ.
C'est fascinant de voir que le problème n'a pas vraiment changé. Mais alors, soudainement, au verset 19 et au verset 20, le texte bascule complètement.
Ah oui, c'est le grand saut.
On passe de la gestion d'un conflit local, avec quelques escrocs itinérants, à une véritable guerre cosmique.
Oui.
Paul donne cette instruction qui est vraiment intrigante. Il dit « Je veux que vous soyez sages en ce qui concerne le bien et innocents en ce qui concerne le mal. »
C'est magnifique cette phrase.
Et pourquoi il dit ça?
Eh bien, si on relie cela à la vue d'ensemble de la théologie biblique,
ouais.
L'injonction de Paul, c'est en fait une inversion délibérée de la tragédie du Jardin d'Éden.
Ah, comment ça, une inversion?
Réfléchissez-y deux secondes. Adam et Ève, au départ, ils étaient innocents. Ils baignaient dans le bien.
Oui, ils ne connaissaient que ça.
Mais ils ont cédé à la tentation d'être sages à leurs propres yeux, d'acquérir la connaissance du mal par l'expérience directe.
Le fameux arbre de la connaissance du bien et du mal.
Exactement. Et là, Paul il dit à l'église de Rome de marcher dans la direction complètement opposée.
De faire le chemin inverse.
C'est ça, devenez des experts absolus dans la pratique de la bonté et rester de parfaits ignorants, des novices sans aucune expérience pratique quand il s'agit du mal.
Waouh, c'est super puissant dit comme ça.
Et il scelle ce lien avec la Genèse par cette promesse vertigineuse du verset 20 où il dit « Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds ».
Et ça, c'est une référence très directe à Genèse 3.15,
oui.
Où il est promis que la descendance de la femme écrasera la tête du serpent.
Tout à fait. On retrouve aussi cette image dans l'Apocalypse.
Mais pour les chrétiens du 1er siècle, cet adversaire, Satan, ce n'était pas juste une allégorie ou une force un peu conceptuelle lointaine, n'est-ce pas, Aislinn ?
Ah non, pas du tout. C'était une réalité oppressante au quotidien pour eux. Dans la pensée de l'époque, Satan, c'était avant tout l'accusateur et l'instigateur des persécutions bien réelles.
D'accord.
D'ailleurs, le docteur Kinner cite une histoire issue de la littérature rabbinique qui illustre parfaitement la place de cet adversaire dans l'imaginaire spirituel ancien.
Ah oui, l'histoire de Palimo.
Oui, c'est une histoire assez humoristique en fait. C'est l'histoire d'un certain Palimo, et cet homme avait pris l'habitude de maudire Satan avec une ferveur, mais alors une constance au quotidien.
Il le provoquait en gros.
Voilà, à tel point que Satan, selon la légende, finit par apparaître physiquement devant lui pour lui donner une bonne leçon.
Il a dû regretter, hein ?
Complètement. Satan le prend en chasse à travers la ville, et Palimo, il est terrifié et finit par se réfugier en tremblant dans des bains publics.
Dans les bains ?
Oui. Et là, l'adversaire lui fait comprendre, de manière assez musclée, qu'il vaut mieux ne pas jouer à la légère avec les forces spirituelles et qu'il faut se calmer un peu.
C'est une façon amusante de voir les choses, certes, mais on sent bien que ça traduit une angoisse qui était très réelle chez eux.
Absolument. La peur était là. Paul lui-même parlait de sa fameuse écharde dans la chair comme d'un ange de Satan qui était chargé de le souffleter.
Oui, c'est vrai.
Donc, qu'il s'agisse d'une maladie ou bien des persécuteurs physiques qui le traquaient de ville en ville, le mal avait un visage très très concret.
Donc, entendre l'apôtre promettre que Dieu allait écraser cet adversaire et bientôt sous leurs propres pieds.
C'était une assurance eschatologique majeure, surtout pour une église, n'oublions pas, qui allait, quelques années plus tard, affronter la folie meurtrière de l'empereur Néron à Rome.
C'est fou, quand on replace ça dans le contexte de l'histoire avec un grand H. Mais j'aimerais revenir sur cette injonction de Paul d'être innocent vis-à-vis du mal.
Oui, revenons-y.
Parce que, franchement, c'est littéralement l'antithèse de notre culture moderne.
Oh, que oui.
En particulier, de cette habitude hyper toxique du doomscrolling, vous savez.
Le défilement infini, oui.
Voilà, cette compulsion qu'on a tous à faire défiler nos fils d'actualité, à se gaver, mais vraiment se gaver d'informations négatives, de faits divers sordides, d'analyses cyniques, de guerres, de polémiques en permanence.
C'est le mal du siècle.
Et on se justifie souvent en disant « Bah oui, mais il faut bien être informé, il faut être conscient de ce qui se passe dans le monde. »
Exactement, on confond l'information avec la sagesse.
Sauf qu'à la fin, on finit par développer une expertise presque maladive dans tout ce qui est corrompu, et on devient hyper cynique vis-à-vis du bien lui-même.
C'est terrible.
Je me dis que Paul, il nous dirait probablement de couper nos écrans, et de réapprendre à être des novices du mal. Vous ne croyez pas ?
C'est une application d'une pertinence absolue. L'accumulation massive d'informations sur le mal, ça ne produit pas la sagesse, en fait. Ça produit le plus souvent du désespoir, de l'anxiété ou une apathie totale.
Ouais.
L'exhortation de Paul, c'est vraiment de réorienter toute notre énergie intellectuelle et spirituelle vers la construction active du bien.
C'est une sacrée leçon. En tout cas, ce parcours à travers Romains 16, c'est vraiment révélateur.
J'espère, oui.
Parce qu'on est parti d'une simple liste de noms qui semblait n'être qu'un générique de fin super fastidieux, pour finalement découvrir le microcosme vivant d'une révolution en marche.
On a vu de belles choses.
On y a vu des débats très profonds sur le leadership féminin avec Junia. On a vu des anciens esclaves siéger de manière égalitaire à côté des millionnaires de l'administration impériale.
Ce qui était impensable.
Impensable, oui. Tout ça uni par ce fameux lien de parenté artificielle et ce baiser complètement subversif.
Et surtout, on a vu une communauté qui était appelée à résister fermement à la manipulation de ces fameux beaux-parleurs.
Ouais, pour s'engager dans une guerre cosmique par la simple pratique radicale du bien.
C'est vraiment la force immense de ce chapitre. Il nous prouve de manière concrète que la haute théologie très conceptuelle de l'Épître aux Romains, elle ne flottait pas dans les nuages.
Non, elle touchait le sol.
Elle s'incarnait dans de vraies vies, dans les petites maisons de vraies personnes, avec toutes les frictions sociales et les défis immenses que cela impliquait.
C'est super concret. Alors que nous terminons cette exploration pour aujourd'hui, et en gardant bien à l'esprit cette métaphore de l'inversion de l'Éden que l'on vient juste d'évoquer, vers quoi est-ce qu'on pourrait diriger notre réflexion personnelle pour aller plus loin ?
Eh bien, cela soulève une question cruciale, je trouve, pour notre époque.
Je vous écoute.
Paul, on l'a dit, insiste sur le fait d'être sage quant au bien et sans apprentissage quant au mal. Or, nous vivons en plein dans l'ère de l'information et, de plus en plus, de l'intelligence artificielle.
C'est clair.
Et nous entraînons actuellement nos algorithmes et, par extension, nos propres cerveaux au quotidien. Sur la quasi-totalité des pires données générées par l'histoire humaine, les pires commentaires, les pires tragédies.
Tout ça sous prétexte d'avoir une pleine conscience du monde.
Exactement. Et la question qu'on peut se poser, c'est sommes-nous en train de recréer, de manière systémique et numérique, la chute du jardin d'Éden ?
Ah ouais, c'est vertigineux.
Et plus concrètement, comment pourrions-nous, en tant que société, repenser ou concevoir notre technologie et nos propres habitudes numériques pour qu'elles restent véritablement innocentes vis-à-vis du mal ?
Eh bien, ça, c'est une réflexion très profonde à garder à l'esprit la prochaine fois que vous ouvrirez votre téléphone pour consulter l'actualité en boucle, ou même la prochaine fois que vous laisserez défiler un générique de fin au cinéma sans y prêter attention. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés dans cette analyse et à très bientôt.